Mesdames et messieurs, bienvenue à ce premier épisode. Non, c'est pas le premier, c'est le deuxième épisode de la saison 3. On est au deuxième?
Aucune.
Le tournoi, c'était le premier.
Oui, c'est ça.
La saison 3. On est au deuxième épisode de la saison 3. Je suis un peu mêlé. J'ai-tu encore dit premier?
Deuxième.
Ça va super bien. On commence ça en force, guys. Deuxième épisode de la saison 3. Merci d'être là. Et j'avais pas envie de faire une bienvenue. J'avais pas envie de le faire. Fait que je l'ai skippé.
T'as bien fait.
Voilà. Donc aujourd'hui, pas vraiment de spécial. On parle de film, on parle d'un jeu. Je suis en compagnie de Bedu.
C'est moi.
Je suis en compagnie de Maryse.
Allô.
Je suis en compagnie de Pelou.
Non,
ça y tente pas, mais ben, là pareil. Avant de continuer, vous connaissez la rengaine, vous connaissez la tradition. Vous êtes sur une plateforme numérique en train de nous écouter présentement, vous êtes sur Spotify, vous êtes sur Apple, vous êtes sur Google, vous êtes sur Balado, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, il y a un petit bouton abonner, un petit bouton télécharger, ou sinon c'est des étoiles, cliquez sur un de ceux-là, vous nous aidez vraiment beaucoup, beaucoup! Allez chercher encore plus d'auditeurs et après encore plus augmenter notre popularité de podcast et apparaître plus souvent dans les barres de recherche. Et on a également une page Facebook qui s'appelle...
La critique de Yugi.
C'est une bonne réponse. Yeah. Donc allez sur Facebook, faites une recherche, la critique de Yugi si ce n'est pas déjà fait. Allez sur notre page, abonnez-vous et surtout partagez. Partagez et repartagez la page et les posts qu'on fait. Ça nous fait de la belle publicité gratis parce qu'on n'a pas les moyens de se payer de la publicité parce qu'on fait ça bénévolement. Voilà, c'est dit. Alors, on commence l'épisode de ce mois-ci. On a deux films pour vous à l'affiche. C'est bien dit. On a deux films à l'affiche pour vous, ainsi qu'un jeu formidable dont on va parler à la fin. On va parler de The Lost City, qui est disponible sur Netflix. On va parler sur No One Will Save You sur Disney+, ainsi que le jeu Baldur's Gate 3 sur différentes consoles. On commence avec The Lost City. Qui a été écouté en premier par Bedu et Maryse, et ensuite on m'a dit « c'est sûr qu'on a écouté », ça fait que okay, c'est beau, je vais l'écouter. Donc un film de Netflix de 2022, l'année passée, 1h52. C'est une comédie romantique.
Aventure romantique.
Je vois plus ça comme une comédie romantique, mais en tout cas, chacun ses opinions. C'est réalisé par Aaron et Adam Nee, N-E-E. Pas très connus, ils ont réalisé Band of Robbers, qui me dit rien. Ils ont réalisé The Last Romantic, qui me dit rien non plus. Donc, bref, c'est eux qui ont réalisé The Lost City. Ça met en vedette Sandra Bullock. J'ai pas vraiment besoin de vous dire qui est Sandra Bullock, s'il vous plaît. Qui joue le rôle de Loretta. Ensuite, on a Channing Tatum, qu'on a vu dans Magic Mike. En fait, que la majorité des femmes ont vu dans Magic Mike. Ainsi que dans 21 Jump Street. Là, c'est les gars qui l'ont vu à ce moment-là. Il joue le rôle d'Alan. Et on a dans le rôle du méchant Daniel Radcliffe, plus connu sous le nom d'Harry Potter.
Absolument.
Qui joue le très méchant Abigail Fairfax. Bedu, dis-moi qu'est-ce que The Lost City?
The Lost City, c'est l'histoire d'une femme, une autrice. Elle écrit des livres.
Voilà.
Une écrivaine. Était dont le mari est décédé, lui est archéologue, donc il travaillait sur des projets ensemble et à son décès, elle a écrit des livres d'aventure, style Indiana Jones,
mais
ça c'est mon référent.
Des romans,
beaucoup plus des romans. Style Romare Lequin, mais d'Indiana Jones.
Ouais, genre.
Mettons.
Très basé sur ce que son chum et elle trouvaient.
Dans les fouilles, etc. Ouais. Là, dans la maison Amérique, là, mettons, là, genre Aztec, Inca, etc. Là, ça se ressemble un peu à ça. Et donc, elle, lui, c'est ça, lui, son mari est décédé et elle a son dernier livre qui sort, puis elle a un peu le syndrome de la page blanche, je ne sais pas.
Elle a perdu la flore.
Elle a perdu la flore, c'est ça. Fait que là, elle dit ça va être mon dernier. Et elle se fait kidnapper par le méchant qui est joué par Daniel Radcliffe. Parce que dans son livre, lui, il trouve des références à... Dans le fond, il parle de la couronne de... C'est quoi de...
La couronne de feu.
Ouais, c'est ça, de Firebrand.
On retrouve dans la ville de la City of D.
C'est ça, D. Fait que là, il dit, oui, mais tes indices sont bons, on va être capable de les retrouver. Fait qu'il la kidnappe pour qu'elle l'aide à trouver la couronne de feu et qui est un bijou extraordinaire, etc. Et son un modèle de couverture de ses livres, qui est interprété par Channing Tatum, qui porte une longue perruque blonde, décide d'aller la sauver. Parce que, dans le fond, lui, il l'aime bien. Fait que là, il décide d'aller la sauver et là, il part à sa recherche.
Ouais.
Grosso modo, c'est ça la prémisse de l'histoire. Puis, c'est ça, on s'en va vers le côté vraiment Tomb Raider, des trucs comme ça là, de d'aventure, mais avec vraiment à l'eau de rose, beaucoup, on met beaucoup l'accent sur
le côté romantique. C'est pour ça que c'est plus une comédie romantique qu'une comédie d'aventure.
Oui,
avec une saveur.
Ouais, de... c'est ça, exactement. Maryse, tu as pensé quoi de ce film?
Écoute, j'ai trouvé ça divertissant. J'ai trouvé que Daniel Radcliffe faisait qu'un seul méchant parce que j'avais l'impression de l'écouter dans...
Now You See Me?
Ouais, le film de magicien, là.
Le 2.
Le 2. Ouais. Où est-ce qu'il joue aussi un méchant, mm-hmm. habillé exactement de la même façon, avec le même genre de
les mêmes manières, puis ouais.
Exactement, exactement.
Même, quoi, même que pendant, au début, j'ai dit, OK, c'est là que j'ai vu ce méchant-là, puis après ça, j'ai comme fait, non, me semble, c'est pas là, je l'ai vu, ce méchant-là.
Tu vois, moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien entre le film de magie puis celui-là, pendant, comme tellement que je trouvais qu'il était le même. Sandra Bullock, ben, je veux dire, elle est drôle, cette fille-là, ça comme... c'est extraordinaire. Son éditeur aussi.
Ah oh oui,
Mon éditrice, oui, est quelque chose.
J'aime surtout la représentante Instagram.
Oui, aussi. Oui. Tellement
qu'elle... Elle sert à rien. Ouais, absolument à rien, mais elle rajoute un élément humoristique. Là.
Exactement, ouais. Mais elle sert un peu à ridiculiser la nouvelle génération aussi en même temps. Là, où est-ce qu'on oublie la réalité puis on fait juste comme être là-dessus. Là. Moi, c'est ça. J'ai trouvé ça bien. Channing Tatum, c'est pas mon préféré. Je trouve pas que c'est un bon acteur. En fait, je le trouve bon quand il danse. Ce gars-là, on sentait que c'est fait connaître dans des films de danse, et non, c'est pas juste Magic Mike.
Mm-hmm.
Il a littéralement commencé avec des films de danse.
C'était pas
bon, c'est ce que je veux dire.
Dans lequel il était très bon.
Oui, il était très bon.
Mais c'est ça, c'est comme un gars de shape, de super-héros, mais qui danse bien, mais qui est pas...
C'est pas trop stiff.
Oui, c'est ça. Fait que...
Il a un beau corps, il a une belle face.
Mais il n'est pas tant une belle face. Ben, c'est... En tout cas, pas pour moi. Pas pour moi.
Généralisé.
Il y a pire.
Il y a pire.
Ouais,
il y a pire, non, mais en tout cas, c'est ça. Fait que non, il y a des places qui m'ont fait sourire. Je dois avouer qu'il y a des places qui m'ont surpris aussi, avec Brad Pitt, entre autres.
Oui, en effet.
Tu sais, il y a comme des moments où est-ce que t'es comme pas capable de les voir venir, même si c'est un film romantique.
Oui.
Puis ça, j'ai trouvé ça drôle. Mais c'est ça, c'est un bon divertissement.
Ben, c'est un peu ça aussi, là. T'sais, l'histoire, c'est prévisible, entre guillemets, là. Tu sais à quoi t'attendre.
Même le un des deux goons,
oui.
Du méchant.
Oui.
Quand le méchant, quand Miguel Fairfax a dit « Ah, il vient de cette région-ci, il est pas très 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 d'accord avec ce qu'on fait.
Oui. »
J'ai comme fait c'est clair que lui a mon nez à vivre.
Ouais, c'est ça. T'sais, c'est prévisible. C'est ça. Mais c'est bien, c'est ça. C'est un bon divertissement. Une heure, quoi, une heure?
1h52.
Ouais, c'est ça. Ça passe ta soirée, tu sais, moi souvent c'est mon critère, là, je l'écoutais puis je j'étais pas là, ah on va l'arrêter, c'est plat. Tu sais, je le montre jusqu'à la fin. En effet, tu sais, je dis Harry Potter, mais Daniel Radcliffe, pas un excellent acteur comme méchant, là, tu sais, c'est comme il est peu crédible. Quoique son histoire fit, là, tu sais. C'est comme le frère que personne qui est comme pas connu, puis là, lui, il veut avoir son heure de gloire.
Encore là, j'avais l'impression que même dans Now You See Me Too,
ouais.
Ben,
qui a la même prémisse que lui, où il y avait il avait un frère qui était très fort, fait qu'il voulait essayer de l'accoter. C'est pour ça que j'ai vraiment eu l'impression
de... Il voulait sauver l'honneur de
même?
Son père.
C'est-tu le même? Ah, c'était son père, là, ouais, c'est ça.
C'est ça. Il voulait sauver l'honneur de son père et l'impressionner aussi en même temps.
Ouais.
Puis...
Tu sais, j'ai quand même ri où il y a un peu d'absurde un peu dans là-dedans, tu sais, le sauvetage avec... on le voit dans la bande-annonce, tu sais, comme Brad Pitt
avec
là-dedans.
Brad Pitt,
puis là, il arrive, puis que là, Alan, il arrive, il tombe du toit, tu sais, l'espèce de côté un peu clumsy, parce que dans le fond, lui, il est full, il est buff, il est tout bâti, etc. Mais il est pas très...
Il est pas physique pantoute.
Pas du tout, là. Fait que, tu sais, c'est ça qui est drôle, c'était bien, là, c'est bien casté, j'ai été diverti. Moi, je trouve que la productrice... je suis pas fan de, je trouve qu'elle m'énerve un peu. Puis l'éditrice, tu veux dire? L'éditrice, ouais. Là, je sais pas son nom, mais l'éditrice.
Ah, je l'ai pas noté parce que...
Ouais, je la trouve comme pas vraiment utile. Moi, elle me dérange plus que d'autres choses. C'est un des points négatifs.
C'est le commentaire que j'ai eu aussi en finissant d'écouter ce matin, que si une des personnages, comme la fille qui gère le compte Instagram, qui, à mon avis, sert pas à grand-chose... Non. Elle a à la fin parce que ça l'aide à. Je sens rien de gâché, là. Mais sinon, j'ai pas trouvé qu'elle servait tout ça. Ben, elle apporte une mini touche d'humour, entre guillemets, sympathique, cute, mais sans plus. Ouais. Je veux dire, avec son le pilote d'avion qu'elle rencontre.
Il y a juste le bout avec les deux policiers là, quand elle arrive sur l'île puis qu'elle elle pète sa coche au policier.
Ça
m'a fait rire, ouais. C'est le seul. Que, tu sais, en gros, c'est un bon divertissement. L'histoire est pas extraordinaire. Attendez-vous pas à une révolution. Mais c'est ça. Tu sais, Sandra Bullock, c'est toujours une valeur sûre. Là. C'est rare.
Elle fait pas tout le temps des bons films, mais ça reste une bonne actrice.
Mais elle les joue toujours bien.
Elle les joue toujours bien quand même. Fait que c'est jamais à cause d'elle que le film est mauvais.
Non, c'est ça. Soi, là.
Ouais. J'ai sensiblement les mêmes commentaires. L'humour est beaucoup plus cute que drôle.
Oui.
J'ai bien aimé la scène où ils sont dans la voiture puis qu'ils courent après avec la moto. Oui. Ça, j'ai trouvé ça quand même drôle. Quand même des passages très drôles dans ce moment-là. Le petit bout où ils se font pourchasser par deux motocyclistes puis la façon que ça se termine. Oui. Ça aussi, c'est quand même très drôle. Tu sais, il y a des bouts quand même bien.
Ben, tu sais, ce qui était drôle, c'est que c'était comme pas des super-héros, tu sais, comme on voit dans Indiana Jones, où est-ce que tout a de l'air, tu sais, prévu.
Prévu et facile, quasiment.
Là, t'as l'impression que c'est comme toi pis moi qui est pris là-dedans.
Qui est plus mardeux qu'autre chose.
Qui est plus mardeux qu'autre chose. Puis qui sait qu'il va mourir mangé par des maringouins. Ouais, tu sais, c'est.
Les bouts des larves est quand même très drôle aussi.
Les sangsues.
Oui, c'est bien.
Le côté romantique, pas trop prononcé. Juste assez pour que ce soit cute.
C'est pas l'essentiel du film.
Non, c'est ça, tu sais. Fait que. Des fois, des rom-coms, c'est beaucoup trop prononcé. Puis on tombe trop dans le cucu, comme on dit. Fait que ça, j'ai quand même bien aimé.
Comme ceux qu'il avait fallu écouter pour Noël, la dernière.
Ouais, genre, c'est ça.
Ça va revenir.
Je suis allé voir un petit peu, ben j'ai vu justement sur IMDb que ce film-là avait eu des nominations pour certains prix.
Razzies?
Les MTV Movie Awards. Okay. Sandra Bullock avait été nommée, elle a été nominée comme meilleur rôle principal.
Ok.
Le duo de Sandra et Channing dans le meilleur team.
Ouais.
Parce que les MTV Movie Awards, hein, c'est des catégories un petit peu plus grand public.
Ouais.
Daniel Radcliffe a été nominé comme étant le meilleur vilain.
Ouais, il n'a pas gagné.
Et il a gagné. Hein?
Il n'y avait pas de compétition.
Ouais, c'était exactement ce que je me suis dit. Si lui a gagné le meilleur vilain, il n'y avait pas de bon vilain en 2022 dans les films. Parce que, my God, tellement générique et déjà vu dans un autre film.
On va googler pendant qu'on parle.
J'étais ok, d'accord.
Écoute, moi j'ai tellement juste pas compris l'espèce de table en U avec. Tu réalises que c'est de la bouffe, mais ça a l'air à des fleurs mortes.
Ouais, hein? Ouais, au début, là, quand
ouais, les fromages. C'est des fromages, puis les charcuteries.
Pas vrai?
Oui. Juste avant que l'avion arrive, là.
Écoute, j'ai zéro compris, là. Je me suis dit, puis là, quand tout décolle avec le vent, je me dis, ok, ils trouvaient ça cool de faire décoller
ça. Ouais, je pense que c'était plus pour ça. C'était plus pour un effet de. Visuel, je sais pas trop.
Écoute, comment? Hein?
Parce qu'on sait que Daniel Radcliffe est capable de jouer un bon méchant, mais là, je trouvais tellement. Parce qu'il a joué exactement le même type de méchant dans Now You See Me 2, qui c'est quand même un copier-coller, puis ça m'a comme pas du tout attiré. C'est comme si, justement, le monde de MTV Awards a oublié que le film Now You See Me 2 existe. Ils ont comme fait un delete, voici le brand new vilain. Ouais, mais
ils sont peut-être trop jeunes.
Peut-être. Oui, Hugo, t'as une question.
Non, j'ai les nominations.
Ah, ok.
The Best Villain.
Best Villain de 2022 du MTV Movie Awards.
Absolument. On avait Colin Farrell dans The Batman qui fait. Dans The Batman, il fait.
The Saints.
Le Pingouin.
Ah, le Pingouin. Colin Farrell. Là. Oui. Ok, oui, le Pingouin, c'est
le Pingouin.
Ouais, ok.
James Jude Courtney dans Halloween Kills. Donc, Halloween de Michael Myers. Ouais. Ouais. Victoria Pedretti dans le film You, que je n'ai pas vu.
Ouais.
Puis Willem Dafoe dans Spider-Man No Way Home.
Ah, je râle avec William Dafoe à ce moment-là. Hein.
C'est ça. Donc, c'est Daniel Radcliffe qui était...
Daniel Radcliffe a battu William Dafoe. OK, wow.
Mais tu sais, juste pour vous dire, puis là, je fais une petite parenthèse, il y avait une nomination Best Kiss dans cette année-ci. Et le gagnant est Poopies and the Snake dans Jackass Forever.
Bon, OK, fait que ça donne une bonne idée du public cible de des MTV.
Mais ça a toujours été un peu ça aussi, les MTV Movie Awards. Là, on se le cachera pas, mais bon. Voilà. Fait que, tu sais, oui, il y a eu des nominations, puis il y a eu un prix, mais... On ne veut pas dire grand-chose. J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce film. Je pense qu'on a fait assez vite le tour.
Oui.
Les notes sur IMDb, c'est 6.1 sur 10. Ce qui est bas, mais pas si bas que ça pour IMDb, parce que généralement, c'est entre 6 et 7 sur IMDb.
Oui.
Fait que, il est peut-être un petit peu dans sa tranche du bas, mais il reste dans sa tranche normale. Metascore lui donne un 60, qui n'est pas très, très, très élevé. Rotten Tomatoes, les critiques lui donnent 79%, ce qui est pas mauvais.
Moi, je me retrouve plus souvent avec Rotten Tomatoes.
Puis l'audience donne 83%.
L'audience est toujours un petit peu plus haut.
C'est toujours un petit peu plus haut. Moi, pour Yugi, la note, c'est un 7. C'est sympathique, c'est cute. Je l'ai écouté une fois, je le réécouterai pas. Je pense que 7, c'est une note tout à fait respectable pour ce film-là.
Moi aussi, même chose. Ça passe, vous trouverez pas ça plate, vous allez l'apprécier. Si vous avez Netflix, vous savez pas quoi écouter, vous voulez faire. Des fois, moi, souvent, là, c'est ça.
Tu sais, on a fait une soirée.
Mais je vais pas commencer une série, journée, des fois, rendue après le souper, des fois, j'ai écouté de quoi. Puis, un film, je regarde les nouveautés. Ben, ça repasse bien. Fait qu'un 7, on est à la moyenne de 7 pour The Lost City.
Même chose. Ça va être un 7 aussi.
Voilà, donc voilà notre 7 pour The Lost City sur Netflix, petite comédie romantique de 1h52. Prochain film à l'ordre du jour, un film sur Disney+, un film de 2003 qui vient tout juste de sortir il n'y a pas très 23. Longtemps. De quoi?
T'as dit 2003.
Ben c'est peut-être 2003 aussi, tu le sais pas.
Non, c'est 2023.
C'est 2023, ok, d'accord. Donc, 2023 sur Disney+, un film de 1h33. C'est un film dans la catégorie horreur thriller. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, c'est l'Halloween bientôt. On fait pas de spécial d'Halloween. On va au moins parler d'un film de style horreur. On parle de No One Will Save You. Réalisé par Brian DeField, qui a réalisé Love and Monsters, ainsi que le film The Babysitter, qui je crois vous avez parlé il y a pas très longtemps, je crois.
Oui, ben sur Netflix.
Ouais, exactement. Ainsi que il a réalisé un des films de la série Divergent, que je n'ai pas vu, mais qui est un film
dans la série Hunger Games.
Ouais, un petit peu le style là.
Une autre série de style de film.
Ça met en vedette une actrice.
Oui.
Il y a d'autres beaucoup de figurants. Mais le film tourne sur une seule actrice qui est jouée par Caitlin Dever, donc qui joue le personnage de Bryn. Jeune actrice qui a fait quelques films. Elle a fait le film Booksmart qui me dit absolument rien.
Ouais, je regarde sa filmographie. Elle avait beaucoup de choses à son actif, mais pas de rôle principal.
C'est ça. Donc, elle a joué aussi dans un petit rôle dans une série qui s'appelle Unbelievable, ainsi que dans la série Justified. Fait que tu sais, c'est son premier gros rôle, entre guillemets, disons.
La première fois que je la voyais vraiment.
Ben, c'est ça, moi aussi. Est-ce que l'un de vous deux veut décrire No One Will Save You ou est-ce que je me lance?
Vas-y, Marise.
Moi, je vais y aller.
Vas-y.
C'est une jeune femme qui vit seule parce que sa maman est décédée. Et dû à une mauvaise histoire du passé, ben, elle est vraiment...
Aliénée
par tout le village où est-ce qu'elle vit. Donc, elle sait que tout le monde la pointe du doigt ou parle contre elle. Alors, elle fait vraiment sa petite vie de son côté.
Elle a un petit côté socially awkward aussi.
Tu vois qu'elle est
un petit peu timide socialement.
Un petit peu, en effet. Mais malgré tout attachante, malgré tout ça, tu sais, t'aurais comme envie de la prendre dans tes bras et dire « ça va aller, là. Tu fais bien ça ». Fait que c'est ça, donc d'une débrouillardise assez impeccable, on le voit bien avec on a l'impression qu'on va avoir une vieille maison toute démolie et toute crade en arrivant, puis non, c'est super champêtre, c'est beau et tout. Puis pendant la nuit, c'est là que ça vire au cauchemar et que là, elle se fait... Envahir.
Envahir,
oui, littéralement.
Visiter.
Visiter, oh, envahir, moi, je dirais.
Oui, une visite pour la première nuit. Ouais. L'envahissement vient après.
C'est
ça.
Oui, c'est ça, exact, exact.
On vient tenter le terrain, puis après ça...
D'une façon la plus creepiest possible, ça faisait longtemps que j'avais pas filé aussi malaise. Et finalement, ce sont des extraterrestres, donc, qui sont venus, là... qui viennent et qui tentent de, en quelque sorte, posséder les humains. Puis ils s'acharnent énormément sur elle, puisque par un pur coup du hasard, eh bien, elle assassine son premier extraterrestre. Fait qu'après ça, ben, s'ensuit une débauche d'essayer de se sortir de ça et d'essayer de trouver de l'aide et de se rendre compte que ben, y a personne qui va venir l'aider. Fait qu'il est mieux de s'aider tout seul.
C'est une très bonne description. Chose importante à mentionner, c'est un film quasi sans dialogue.
Il y a une réplique.
Deux.
Il y a deux réponses.
Dans le milieu du film.
Moi, je dirais peut-être même borderline 3, mais tu sais, il y a eu un « Oh, come on », je crois, à un moment donné.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'onomatopées puis de sons en
arrière. C'est ça, mais c'est vraiment, il y a nullement de dialogue dans ce film, qui, je crois, a apporté une touche intéressante à l'histoire, ça apportait quelque chose d'un petit peu nouveau. On l'a peut-être vu un petit peu avec The Quiet Place.
Ça, c'était ma référence, The Quiet
Place. C'était la mienne aussi. Ouais, mais The Quiet Place, il y a quand même des dialogues, tandis que là, c'est... Il y en a pas. Il y en a juste pas, tu sais.
Non,
je pense que ça l'amenait une touche un petit peu plus creepy encore.
La façon que c'est amené, en plus, c'est que t'as pas besoin du... tu sais, de la discussion, non. T'as pas besoin de texte, tu sais, tout est tellement ressenti que t'es comme... Ben voyons donc, là, tu sais, c'est...
Il y a certains éléments de l'histoire que t'as pas au début.
Vraiment.
Puis que tu dis, OK, mais comment ça qu'il y a de même? Qu'est-ce que c'est? Tu sais, tu le sais. Puis là, à un moment donné, OK, ça fait qu'il s'est peut-être passé quelque chose avec ce personnage-là, mais t'en sais pas encore plus.
Mm-hmm.
Puis c'est vraiment tout au long du film que là, tu commences à mettre tous les morceaux ensemble puis à mieux comprendre le personnage. Pas nécessairement mieux comprendre l'histoire, mieux comprendre le personnage. Parce que je trouve qu'il y a des éléments de l'histoire à la fin qui...
On peut s'en parler.
Voilà. Ben Hugo, vas-y, dis-moi ce que t'as pensé du film.
OK, ben moi, ce que j'ai aimé, et je n'ai pas parlé à Marie, parce qu'on l'a écouté ce matin, ce que j'ai aimé, moi, c'est ben, le côté, le choix musical, et de même pas juste des chansons, mais de la musique du score, là, de la musique de l'instrumental, aide beaucoup à mettre l'accent sur le sentiment que vit l'actrice. Ouais. C'est bien fait. Ça m'a vraiment marqué. Je remarque pas toujours la musique, mais là, j'ai vraiment... Ça m'a frappé. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que... Il y a d'un côté un peu le côté film d'horreur, genre, ben, il fait juste te pousser, puis t'auras plus de problème. Puis à un moment donné, ben, là, tu vas te rendre compte que non, elle peut pas se sauver, etc. No one will save you. Et elle se débrouille intelligemment, contrairement à plein de films... Moi, je suis un fan de films d'horreur, puis là, des fois, tu fais « Voyons, pauvre con, ça marchera pas. » Il y a un bout, là, je sens, ben, où le bout où les casseroles avec de l'eau.
Oui. Quand elle fait un petit peu sa Macaulay Culkin, a préparé sa maison à l'évasion.
Elle va mettre des casseroles d'eau à bouillir sur le rond, que si elle se fait attaquer, elle va pouvoir lui pitcher de l'eau bouillante. C'est vraiment une bonne idée. Ça, je suis comme « Ah, ils ont pensé à ça. » Tu sais, je trouve que c'était bien orchestré. À certains des petits rappels à un moment donné, elle sort de quoi de ses poches qu'il y a 40 minutes, elle l'avait mis, tu fais « Ah, OK. » Fait que ça, c'est bien. Les extraterrestres, ça va.
Ils sont bien faits.
Ils
sont capables d'être creepy. Tu sais,
ouais, c'est ça. Là, c'est bien fait aussi.
Différents modèles aussi. C'est pas tout le temps le même type.
Ils sont pas tous pareils. Ça, c'est bon. Au début, c'est ça, je l'écoutais avec Maryse, puis là, à un moment donné, je dis « Hey, ça fait 10 minutes, il n'y a pas eu de réplique encore. Oh, on est rendu à 30. Puis là, je me dis, OK, mais il n'y en aura juste pas. A Quiet Place était ma référence où il y en a un petit peu plus. Ouais. Moi, A Quiet Place m'avait plu beaucoup. L'ambiance puis la réalisation était vraiment, vraiment une coche au-dessus, je pense, selon moi. Ce qui fait que là, on était vraiment plus freaked out. Là, celui-là, c'est plus graphique. Tu vois les extraterrestres, tu vois ce qui se passe. Ils font peur, là, tu sais, c'est comme, ils disent rien, non, mais les bruits qu'ils font, là.
Ils sont très creepy avec leur mouvement de bras, les positions qu'ils prennent pour faire les signaux.
La seule affaire, moi, c'est la fin.
Ah.
que j'ai fait, non. J'ai arrêté, j'ai décroché à la fin.
Mais même, je dirais même pas la fin.
Mais moi, la petite
il y a un moment dans le film où là, j'ai fait, non, ok, là, c'est rendu du grand n'importe quoi. Puis je veux pas trop le divulgâcher, mais en mentionnant quelques mots, quand elle se bat contre le parasite,
oui,
et ce qui s'ensuit dans la forêt,
oui,
là à ce moment-là j'ai fait non, là c'est rendu du grand n'importe quoi,
même chose,
et là je ne comprenais plus rien de ce qui se passait.
J'ai décroché au même instant,
et là s'ensuit tout ce qui s'ensuit. J'arrive à la fin puis je suis encore là.
Oui, je te comprends.
J'étais si bien parti. C'était un si bon début pour finir comme ça. J'ai fait, ah, que c'est décevant.
100% d'accord, j'ai décroché au même endroit.
Je pense qu'il aurait pu apporter ça peut-être d'une autre façon, mais c'est vraiment la fin souriante, que je vais dire, qui m'a fait... Ben, non, c'est trop facile.
Ouais, il y a le bout après le parasite, puis il aurait pu arriver au... Il aurait pas arrêté où les babayes?
Ouais.
Ça.
Ouais.
La minute d'après, ouais, c'était trop. Mais ouais, ça, c'est mon œuvre.
Non, je suis d'accord.
Marie, je pense qu'elle partage pas mon œuvre.
Ben, go, Marie, ça.
Notre.
Ben, oui, puis non. Oui, puis non. Je dirais que, pas mal au même moment, moi aussi, j'ai comme commencé à. What the heck, là? Ouais. Pourquoi que là, on switch soudainement de tempo pour le film? Mm-hmm.
Puis pourquoi elle a été capable? Mais pas les autres. Ça aussi, ça m'a gossé.
Mais c'est ça. Mais, je me suis mis comme dans ma tête de fille qui aime écrire des histoires pour essayer de comprendre où est-ce que, mettons, l'auteur aurait voulu aller avec son personnage. Fait que là, tu pars d'une jeune fille qui est obligée de devenir très forte pour essayer de pallier au fait qu'il n'y a personne qui l'aime.
Mm-hmm.
Donc, elle a l'habitude d'être ça.
Mm-hmm.
Et elle sait très bien ce qu'elle a fait de mal, elle sait très bien qu'elle aimerait s'excuser et tout ça, mais tu sais, elle veut vraiment comme, bon, se battre contre tout ça, clairement, et non pas se soumettre à la situation. Lorsque ça switch, j'ai comme eu l'impression qu'on a voulu garder la force de ce caractère-là. Donc, contrairement, mettons, à toutes les autres qui se font posséder, qui sont peut-être bien dans ce qu'ils sont, elle réalise bien que c'est impossible. Où est-ce qu'elle est? Donc, elle décide d'y mettre fin. Donc, sa façon de s'excuser est plutôt une façon de dire, moi, je ne le ferai pas, j'embarquerai pas dans cette game-là. Peut-être que toutes les autres auraient pu le faire, mais toutes les autres ont choisi de se plaire dans le mensonge.
Mais ne le fait-elle pas à la fin?
Mais t'as peu.
Okay.
T'as peu. Fait qu'après ça, j'ai comme eu une impression qu'elle devenait une fascination pour les envahisseurs. Où est-ce que les envahisseurs ont pu le même regard sur elle? Entre autres, bon, lui qui regarde, prend la peine de regarder tous les bricolages, toutes les photos, toutes les patentes. Il y a comme une espèce d'analyse. T'en as un autre qui a l'air comme... comme vilain, mais pas tant. Quasiment comme un enfant qui veut de l'attention. Après ça, t'as comme le très, très grand qui lui donne énormément de chance, contrairement à ce qui s'était passé avant. Fait que j'ai comme l'impression d'une espèce de... On essaie de te coincer pour t'attraper parce qu'on veut comprendre pourquoi toi, on n'est pas capable de t'avoir. Donc, on a compris pourquoi qu'on n'est pas capable de t'avoir. Ben, ta récompense, c'est qu'on va s'organiser pour que ta vie soit changée. Ta récompense, ça va faire qu'on va faire, tu sais, tu vas vivre dans ton monde idéal, donc dans ton tes petites maisons, tu sais, parfaites, de ton petit village parfait des années 50, le genre à la, comment ça s'appelait le film, là, Pleasantville?
Mm-hmm.
Ça me donnait un peu des vibes de tout ça, là. Où est-ce qu'elle peut finir sa vie heureuse?
Mais moi, mon problème avec ça...
Fait que, tu sais, c'est mon analyse de... Je veux que mon personnage soit fort jusqu'au bout. Puis comment je peux l'amener forte jusqu'au bout. Anyway, c'est déjà du fantastique. C'est déjà surréel. Donc, je vais amener ça jusque-là.
Moi, mon problème avec ça, c'est que tu changes complètement le tempo du film qui était très bon. on est en haleine, on est stressé, c'est bien fait, et là t'arrives, puis tu t'en vas complètement ailleurs, puis là tu perds ton auditoire. Hein? Non. T'sais, alors que ça aurait pu finir vraiment différemment, elle aurait pu, elle, être genre, tu sais, je comprends, on voulait pas, j'imagine que l'auteur voulait pas qu'elle se fasse poursuivre toute sa vie, puis ils ont essayé de trouver une fin X, mais moi, ça m'a dérangé.
Moi, j'ai comme eu l'impression que, puis on dirait que c'est ça qui m'a dérangé, c'est que, puis j'essaye du mieux possible de ne rien divulgager.
Mm-hmm. Ouais, j'espère, j'en ai pas trop.
Mais si, non, c'est correct, okay. Tout le long du film, ou presque, t'as les méchants, puis l'héroïne.
Oui.
Puis avec ce qui se passe à la fin, j'ai comme eu l'impression que c'était pas des méchants.
Mm.
Dès le départ, c'était pas des méchants. Ils venaient juste nous aider, puis on a tellement eu peur d'eux qu'on a contre-attaqué, fait qu'eux se sont défendus. Puis qu'à un moment donné, tu te rends compte que, ok, fait que dès le départ, dans le fond, ils étaient peut-être juste là pour nous aider, puis elle s'en est rendue compte, fait qu'ils l'ont laissé aller. Puis là, c'est pour ça qu'elle a t'as la petite fin à l'eau de rose à la fin. Fait que c'est trop facile, c'est comme de prendre le méchant puis de le diminuer à la fin puis de le rendre, non, finalement c'était pas ça, c'était pas lui le méchant. Tu sais, on dirait que c'est un petit peu l'analyse que j'ai faite, c'est un petit peu ça qui m'a déçu. C'est pour ça que j'ai dit ça tellement bien parti avec des beaux effets spéciaux puis des bonnes scènes puis l'épouvante un petit peu des extraterrestres qui
mm-hmm.
Puis à un moment donné, tu fais comme non, un petit peu comme dans comment ça s'appelle, non, le film d'épouvante,
ben c'est Signs.
Non. Non, Insidious.
Oui, ben je suis pas fan de ça. Alors.
C'est un film de fantôme.
Ah, c'est les pattes de poulet, là. C'est...
Un film de fantôme où quand tu vois enfin le méchant, puis tu vois que c'est la face de Darth Maul.
Oui,
oui.
J'ai décroché.
Ah, c'est ça, Darth Maul.
J'ai eu un petit peu ce feeling-là, à ce moment-là, de... Ah, c'est juste ça? OK, j'ai décroché. Tu viens de m'enlever le moment stressant, le moment de peur que t'as durant le film.
Ben, Paranormal Activity, c'est ça que là, que le diable a des pattes de poulet à la fin? Là.
Ouais.
Ça va créer. Moi, j'ai la chienne.
Paranormal, moi aussi, j'ai jusqu'à la toute fin.
À la fin, comme... tu vois, quand il se fait traîner, tu fais comme. Colle,
bon. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que j'ai eu un petit peu le même sentiment.
Insidious, ouais, c'est ça.
Fait que pour ça, tu sais, c'est un bon film en général, jusqu'à, tu sais, j'étais, ok, non, c'est 8, ah, 8.5, on est à 9, on est à 8, oh, non, on est à 7, oh boy, je viens de descendre à 6, oh boy, oh, fuck, quelle note que je donne.
Excusez-moi.
Ça a été ça un peu mon
oui.
Tout le long du film, puis j'ai fini le film cette semaine, après l'avoir écouté les deux, une première demi-heure dans le bus, l'autre demi-heure dans le bus, il me restait une demi-heure, je l'ai fini, je suis allé me coucher, puis... Cette dernière demi-heure-là, comme fait, on dirait que j'aurais dû l'arrêter une demi-heure. Je vais aller me coucher. Ça finit là. Fait que voilà.
Les notes.
Les notes sur... un petit peu surprenant, mais moi, pas surprenant en même temps. IMDb 6.4 sur 10. À mon avis, je crois une note normale pour IMDb. Il n'y a rien de surprenant. Metascore donne 60 également pour ce film-là.
Mm-hmm.
Rotten Tomatoes, les critiques donnent 81%. Je lisais les notes. C'est beaucoup par rapport à la réalisation, par rapport au non-verbal, à la musique, à tout ça.
L'idée de base de ne pas faire
parler. C'est ça. Fait que 81% au niveau des critiques, je trouve ça normal. 59% au niveau de l'audience.
Il y a beaucoup à la fin,
je lisais aussi les commentaires. Il y a beaucoup de monde qui ont aimé ça, puis il y a beaucoup de monde qui ont également complètement décroché vers la fin.
Mais c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde, le fait qu'il n'y a pas de dialogue.
Ça l'a dérangé beaucoup de monde, mais la majorité des commentaires que je disais, c'était vraiment par rapport à la fin, où le film a perdu beaucoup de monde à cause de ça, ce qui est, à mon avis, décevant, parce que l'idée était bonne, l'actrice est bonne, elle joue bien le rôle, les extraterrestres sont le fun, mais c'est quelque chose qui a comme dérapé.
Oui, t'es interrompu.
Puis là, justement, c'est une fin qui amène tellement plein d'interprétations différentes...
Moi, quand la fin d'un film est pas claire.
Mais c'est ça. Moi aussi, ça me. C'est,
normalement.
Tu veux trop m'amener dans ma tête et trop me faire réfléchir. Réfléchis à la fin.
Ça pourrait être ça.
C'est... Non, c'est ça. C'est...
Je suis d'accord.
Ma note à moi, c'est un 6.5. J'avais beaucoup aimé. Ça, comme je dis, ma note montait, puis vling, ça a redroppé vers la fin. J'ai trop été déçu par la fin. Donc, 6.5 est quand même la note. générale moyenne de tout le monde, je pense.
Je vais lui donner un 6. Tu sais, je lui donnais Lost City un 7. Lost City est meilleur que ça. Là. À cause de la fin. Là. Tu sais, j'ai été plus divers. Tu sais, c'est ça. C'est la fin me turn off tellement. J'ai fait. Ah, non. 6 sur 10. Oui.
Ben, moi, je vais y aller avec un 7.
Écoute,
t'as le droit. Voilà. Mettons que vous vous lancez le défi de devoir écrire une histoire où est-ce que votre héroïne, elle est super importante pour vous. Puis là, c'est un film, justement, d'enlèvement puis tout ça. Ça finit comment?
Soit qu'elle finit qu'à gang, soit qu'elle finit qu'à peur. Pour moi, ça serait ça. Soit que je vais la faire gagner, elle botte les culs de tout le monde, ou elle se fait défaire complètement, puis c'est le méchant qui gagne. Moi, ça va être l'un ou l'autre. Si tu m'amènes en plein milieu où sont-tu vraiment bons, sont-tu vraiment pas bons, as-tu vraiment gagné ou as-tu vraiment perdu? Non, là, tu m'as perdu. J'ai eu cette impression là sur ce film. Donc, mais bref, moyenne de note de 6.5.
Mm-hmm.
Quand même bien. Faites votre propre idée si vous êtes amateur de films d'horreur ou de films d'invasion des extraterrestres. Ouais. Lâchez-vous là. L'idée de base est quand même bonne. Si vous avez aimé A Quiet Place, vous allez peut-être aimer également la thématique du non-verbal, qui est quand même très sympathique. Ça mérite une certaine écoute. Puis à la limite, si vous arrivez au point dont on parlait sans vraiment vous dire c'est quoi, puis que vous vous sentez décroché, ben au pire, arrêtez là. Puis sinon, si vous voulez voir la suite, ben continuez, puis faites votre propre idée du film No One Will Save You sur Disney+. Troisième point à l'ordre du jour, un jeu vidéo. Je pense que c'est la première fois que Bedu se joint à nous pour discussion de jeux vidéo.
C'est exactement la réflexion que tu avais. J'ai-tu parlé de jeux vidéo? Je ne crois pas.
Marie, elle était là pour le spécial Zelda.
Mm-hmm.
Mais je pense que de tous les jeux vidéo qu'on a parlé dans la critique de Yugi, je pense que c'est la première fois, Bedu, que tu es là.
J'en ai parlé un peu dans l'époque de l'épisode Star Wars.
Ouais. Où on a parlé des jeux. Ouais, quand même un peu.
C'est ma première. C'est mon
baptême. Donc, on parle d'un jeu qui est disponible sur... Je vais dire toutes les consoles parce que c'est ça que les sites internet disent, mais il y a tellement de monde qui disent qu'il n'est pas disponible sur Xbox, que je me dois de dire qu'il n'est pas disponible sur Xbox, mais quand tu vas sur le site de IGN pour Baldur's Gate, ça dit que c'est disponible sur Xbox. Fait que bref, mais je sais qu'il n'est pas disponible sur Xbox parce que je connais du monde qui l'ont et qui peuvent pas jouer sur Xbox. Est-ce qu'il va l'être? Probablement, c'est peut-être pour ça qu'IGN a mis le petit logo d'Xbox, peut-être qu'éventuellement il va être disponible, mais pour l'instant il ne l'est pas. Mais il est disponible sur PC, sur Mac et sur PS5. Non disponible sur Nintendo. De toute façon, je ne crois pas que la console soit assez forte pour Baldur's Gate 3. Un film du studio Larian.
Un jeu,
j'ai dit un film. On parle trop de films, c'est pour ça.
Fait rien que ça.
Hein, oui, c'est ça. Donc, le jeu Baldur's Gate 3 du studio Larian, qui a fait... grosse surprise, Baldur's Gate 1 et 2, mais qui a aussi fait toute la saga Divinity. Il y a énormément de films, de jeux Divinity, ainsi que de Beyond Divinity. Donc, c'est le studio Larian qui fait ces jeux-là. Je vais éclairer cette partie-là tout de suite du voice acting. C'est un jeu qui a énormément de voice acting, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Non seulement on a tous nos personnages principaux, mais tous les petits NPC qu'il y a dans le jeu ont une voix. Il n'y a absolument rien qui n'est pas vocal dans ce jeu. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de voice actors. Je vais en nommer quelques-uns. La majorité ne sont pas très connus. La narratrice, c'est Amelia Tyler. Je pourrais même pas vous dire qu'est-ce qu'elle a fait. Je suis allé voir qu'est-ce qu'elle a fait, puis il n'y a rien qui me dit absolument rien, donc je le mentionne pas. On a un des personnages qui s'appelle Astarion, qui est joué par Neil Newborn, lui qui a fait du voice-over dans le jeu Detroit Become Human. On a Jennifer English, qui joue le rôle de Shadow Heart, qui a fait du voice-over dans le jeu Elden Ring. On a également... qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai écrit Pandora? Ah, peut-être. Devra Wild, qui joue le rôle de Lazel. Qui est par Pandora, je parle pas d'un film, je parle d'un jeu qui s'appelle Pandora. On a également Theo Solomon dans le rôle de Will, qui n'a pas fait grand chose, vraiment connu. Tim Downey qui joue le rôle de Gale, qui a joué dans Outlander et dans Good Omens, que vous avez écouté, je crois.
Oui!
On a également dans les plus connus, dans le rôle du méchant
Kedrick. Kedrick, son nom de famille m'échappe. Mais c'est un des gros méchants du jeu qui est joué par J.K. Simmons.
Ah oui, pour vrai?
Qu'on a vu, qu'on voit régulièrement dans les films de Spider-Man comme étant le gros méchant journaliste qui n'aime pas Spider-Man. Donc J.K. Simmons, c'est lui qui joue la voix de Kettering. On a également Jason Isaac qui joue le rôle du méchant Gortash. Jason Isaac, c'est lui qui joue Lucius Malfoy dans les films d'Harry Potter. Et ensuite, on a Maggie Robinson qui joue la méchante Oren, qui n'a rien fait, à mon avis, de vraiment fabuleux. Et mention spéciale à Andrew Wincott qui joue le rôle de Raphaël, simplement parce que sa voix est phénoménale.
Son voice acting est vraiment bon.
C'est de toute beauté. Baldur's Gate est un jeu RPG. Mais pas un RPG comme vous les connaissez d'habitude. C'est pas un RPG à la Final Fantasy, c'est pas un RPG à la Dragon Quest, c'est un RPG à la Donjons et Dragons. C'est un jeu de Donjons et Dragons de toutes pièces. Pour tous les amateurs de Donjons et Dragons, vous connaissez le jeu de Baldur's Gate 3, c'est sûr. Si vous êtes un amateur de Donjons et Dragons et vous savez pas c'est quoi Baldur's Gate, vous n'êtes pas un amateur de Donjons et Dragons.
Mais moi, je pense que tous les amateurs de Donjons et Dragons qui jouent à des jeux vidéo l'ont déjà. T'sais, je pense que les gens qui vont nous écouter vont avoir notre opinion.
Absolument. Absolument, parce que c'est vraiment c'est en tout point de part tout ce que les actions qu'on peut faire,
la mécanique
du jeu Donjons et Dragons se retrouve dans le jeu Baldur's Gate. La seule différence, c'est que là, on oublie l'imaginaire qu'on pourrait avoir quand on joue au Donjons et Dragons et on met un petit peu plus de concret, beaucoup plus de visuel.
Mais il y a une storyline.
Surtout le visuel. Il y a une storyline de base. Mais il y a une quantité phénoménale.
Monsieur Ton disait 17 000 possibilités.
C'est épouvantable, la quantité de possibilités. C'est le genre de jeu où tous tes choix ont un impact sur le reste du jeu. Le jeu est fait en 3 actes et énormément des choix qui te semblent tellement anodins dans l'acte 1 vont avoir un impact sur l'acte 3. Je me souviens de ma première game quand je suis arrivé à l'acte 3 puis que je faisais certaines affaires puis je me rendais compte que « Ah ouais, mais lui, je l'ai pas vu dans l'acte 1, ça fait que là, je peux pas faire ça. » Ou « Ah ouais, lui, je l'ai tué dans l'acte 1, merde, fait que je peux pas faire ça. » Fait que tout plein d'actions vont avoir une conséquence. Tes choix verbaux dans tes dialogues vont avoir une conséquence. C'est rempli de choix, par-dessus choix, par-dessus choix. La quête principale, donc l'histoire de base, peut se faire aux alentours de 50 heures. Je connais quelqu'un, appelons-le Monsieur Ton Junior, qui a fait le jeu, je crois, en 56 heures. Et bien évidemment, il est viré méchant. Il a tourné méchant, il a tué tout le monde.
Mais c'était son but aussi.
C'était son but, et on connaît Monsieur Ton Junior. Il fait ça régulièrement, même dans nos games de Donjons et Dragons de base. Donc, on n'a aucune surprise là-dessus. La mission de base ainsi que toutes les missions secondaires que tu peux trouver t'amènent à environ une centaine d'heures de jeu. Et si tu vas encore plus loin, que tu veux vraiment tout trouver, tout faire les maps, parler à tout le monde, c'est environ 140 heures de jeu. Mon premier playthrough, je l'ai fini en 165 heures. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Mais les amateurs de ce jeu-là vont acheter ce jeu-là parce qu'ils savent que il y a du stock, il y a du matériel. Oui, le jeu coûte environ 100$, mais c'est un jeu qui vaut son pesant d'or. Moi, payer 100$ pour un jeu comme ça...
Mais on divise par le nombre d'heures de jeu, c'est voilà. Même pas une pièce d'or.
Exactement, exactement.
Il
n'y
a pas beaucoup de il y a aucun passe-temps dans notre société maintenant qui a ce rapport qualité-prix. Là.
Ouais. C'est comme toute la beauté aussi de pouvoir jouer avec réellement genre tes amis.
Oui.
En ligne, tu sais, de vraiment bâtir ton histoire, pas dans un monde où est-ce que tu as tous les autres joueurs qui peuvent intervenir. Là, c'est vraiment avec ton monde, tu fais tes décisions, puis tu avances l'histoire.
C'est quand tu joues seul. Parce que quand tu joues seul, tu contrôles tout le monde. Il y a l'option de jouer en multiplayer, où chacun des personnages vont être contrôlés par un joueur, un humain réel. Moi, peu de temps, on a parti une game en multiplayer avec Monsieur Ton.
Oui.
On est 3 chacun chez soi, devant notre PlayStation. On s'est créé chacun un personnage, mais on fait la même histoire que quand tu joues tout seul. Jusque-là, la différence, c'est que
on interagit complètement différemment que si on jouait tout seul tous les personnages.
Oui, parce que c'est les dialogues, c'est pas toujours la même personne qui va les démarrer. Ouais.
Les autres personnes peuvent influencer les choix de dialogue de l'autre.
Oui.
Peut-être qu'Hugo va vouloir dire « Ah, moi, c'est ça que je veux dire, mais moi, Python, on pousse. Non, non, dis ça, dis ça, dis ça! Uh-huh. » Et là, il va peut-être être influencé et dire quelque chose qu'il n'aurait pas dit pour forquer complètement sa game.
Oh oui,
c'est... Ça peut arriver. Et c'est ce qui est le fun de ce jeu-là. Moi, j'ai fini le jeu au complet. J'ai recommencé une game avec un autre type de personnage. Et déjà, j'ai fait des choses que j'avais pas faites sur mon autre game. J'ai vu des choses que je n'avais pas faites sur ma première game. Notre game en multiplayer, on a fait des choses que j'ai vues sur ni l'une de mes deux games.
Mais moi, j'ai trois parties au total. Une solo, une avec Maryse, qu'on peut jouer. Parce qu'on peut jouer local à deux en split screen. Donc, sur la TV, on a chacun. Parce qu'on peut partir, honnêtement, chacun de notre côté. On n'est pas obligé de se suivre.
Ouais.
Elle peut être un bout de la map, puis moi, je peux être un autre bout de la map, puis ça fonctionne. Puis, on a une game à trois. Fait que, j'ai trois parties. Et il y a des choses qui me sont pas qui sont arrivées dans une seule des trois parties.
Ouais.
Fait que la rejouabilité...
Elle est énorme.
Les possibilités sont
infinies. C'est vraiment énorme. C'est le genre de jeu qui peut te prendre, je vais dire 165 heures, parce que c'est le temps que ça m'a pris. Mais c'est un 165 heures que j'ai beaucoup condensé en genre quasiment un seul mois. Alors qu'il y a du monde qui vont faire ça en 120 heures, mais qui vont étaler ça sur 3 mois.
Ce jeu-là, c'est une vraie drogue.
C'est une...
Tu fais juste penser à ça.
Après une semaine, j'ai Monsieur Ton qui me texte, qui me dit « Maudit jeu du diable! »
C'est fou,
puis c'est
là.
Ça, parce que tu deviens... Il y a eu un 24 heures où j'ai pas joué, et je me suis senti comme un drogué qui était en manque de sa drogue.
Je vais vous faire une confidence. J'ai un peu de retard dans mes travaux d'université.
Écoute, moi, là, c'est rendu le sujet numéro un à la job.
Oui.
Hein? C'est complètement fou. Et j'ai une de mes collègues qui disait qu'en attente de son rendez-vous, se demandait, me demande à quelle heure ça va finir, hein, m'avoir combien de temps pour jouer quand je vais revenir. J'aurais dû jouer avant de partir. Puis laisser ma game sur pause.
Ouais, mais tu peux faire tu peux jouer à distance sur ton téléphone. Mais... Remote play avec l'application.
Mais, tu sais, pis là, j'ai dit, c'est fou, là, ce jeu-là. Ouais. C'est une drogue, là. Il y a tellement d'options, il y a tellement de versions qui peuvent se passer que c'est comme de la loterie, là. Ton cerveau veut savoir, OK, mais il va arriver quoi?
Ouais.
Là, j'ai répondu telle affaire. Quand je vais faire mon campement ce soir, les personnages, ils vont penser quoi de ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont me dire de ça? Mais c'est complètement fou, là. C'est une drogue.
Ouais.
Moi, je suis pas un gros gamer dans la vie. Je game, mais beaucoup des jeux linéaires.
J'ai jamais vu mon chum autant jouer.
Ouais, c'est ça. T'sais, moi, je joue mettons, Tomb Raider, Uncharted. Ouais. Les jeux qui sont assez linéaires, ça, c'est mon genre de jeu. Je ne suis pas un joueur beaucoup d'open world. J'ai pas joué Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Zelda, j'ai pas joué. Parce que j'ai pas l'intérêt puis j'ai pas le temps à mettre de dire je vais mettre 120 heures sur un jeu. Pour moi, c'est pas le cas.
Oui.
Je mettrai plus de 120 heures sur Baldur's Gate
3. Écoutez, notre activité demain matin de couple, c'est de jouer. Non, puis à sa fête, l'activité qu'on a faite pour sa fête, on a joué ensemble. Tu sais, c'est...
Et Hugo a fait une confidence et...
T'as-tu la même?
J'ai la même confidence à faire. Moi, je fais un retour à l'université cette session-ci. J'ai deux cours. Et quel timing de marde!
Moi, ça va parce que tout est en ligne à 100%. Fait que là, j'ai des périodes où je me suis discipliné.
J'ai les deux. J'ai un cours en ligne, puis j'ai un cours en présentiel. Puis, tu sais, soudainement, après 10 ans, j'ai des travaux à faire. Mais, tu sais, je suis genre... OK, je vais écouter une capsule en ligne. Et là, j'écoute la capsule en ligne. Elle dure 45 minutes. Puis après 10 minutes, j'ai genre le... J'ai le regard qui s'en va vers la PS5. Je dis, non, concentre-toi. Je suis aucunement capable de me concentrer. Je trouve ça très difficile, mais c'est à cause du jeu du diable de Baldur's Gate 3.
Écoute, je m'étais dit que j'allais être super discipliné, que j'allais travailler sur mes planches de BD, puis que j'allais faire tout mon scénario, puis c'est ça.
Non, c'est impossible. Mais... Des fois, je me dis, OK, je finis telle mission, je vais jouer un petit 2 heures, je vais juste faire cette mission-là, puis je vais aller me coucher après, je commence à 7h, il est rendu 1h du matin, j'ai pas encore fini la mission, parce que je suis pas capable de faire juste ça, je fais plein d'autres affaires, je me dis, ok, là, je vais juste faire mon level up, ça me prend 40 minutes faire mon level up.
Ça fait 2 ans que je me couche.
C'est épouvantable.
À 9h, puis à 9h, j'ai genre mal au cœur, puis je suis fatiguée, là. Depuis qu'on a ce jour-là, mon heure de coucher est beaucoup plus tard. Ouais.
Non, mais c'est aussi... Nous, on est des joueurs de Donjons & Dragons à la base. Ouais. Et c'est la facilité... Tu sais, on avait une game ensemble que c'est moi le DM. C'est sûr que je trouve ça un petit peu plus difficile. J'aime beaucoup plus jouer que DM. Ouais. Puis la préparation, mais j'ai pas de préparation à faire, je me log. Là, on joue, nous, le jeudi soir, les trois, dans une game à trois. Puis, OK, parfait, le jeudi, on s'installe à 7h30, on se met en ligne jusqu'à 11h-ish, là, mettons. Puis, c'est comme notre moment de dire aux joueurs Donjons & Dragons. Puis, tu sais, on fait des blagues parce que moi, je travaille le mardi soir, le mercredi soir. Fait que Maryse joue le mardi soir, mercredi soir, parce que je suis au travail puis j'arrive plus tard. Puis, le jeudi, c'est ma soirée. Fait que ça, c'est
hey, comme puis, j'ai tellement hâte de ces 2 soirs.
J'en ai hâte que je m'en aille. mais c'est ça, c'est vraiment...
Hey, cette semaine, il y avait un rendez-vous chez le dentiste.
C'était folle.
Je jubilais.
Ben, moi, juste ce matin, où j'ai fini d'écouter The Lost City, moi, ce matin, je me suis levé, OK, j'ai une capsule de 30 minutes à écouter. Faut que je l'écoute. Faut que j'écoute le 10 minutes après ça de vidéo qui va me rester. Puis après ça, faut que j'écoute The Lost City. Là, je calculais mon temps. Fait que là, faut que je tarte ça. Fait que ça va me finir là. Ça, faut que je tarte ça. Ça va me finir là. Fait que je peux juste commencer à BG3 seulement à 10h30. Oh, my God!
J'aurais dû me lever plus de bonheur.
Et là, durant la deuxième capsule, le deuxième petit bout de vidéo, j'ai dit, ah, OK, c'est beau, j'ai compris ce que tu dis. Je l'ai fermé. J'ai passé à l'autre film juste pour aller plus vite dans BG3 parce que c'est addictif.
Mais on n'a pas joué aujourd'hui.
Non, moi, j'ai joué.
Pas du tout.
Moi, j'ai joué.
Mais ça me donne un petit baume sur le cœur aussi parce que ça me donne souvent des vibes de fables.
Mm-hmm. En effet.
Et moi, je suis une fan de ces jeux-là. Tu vois, j'allais dire film, mais aussi, c'est une maladie. C'est contagieux. Une fan finie, finale. En fait, on avait une Xbox à cause de ces jeux-là. Ouais. Fait que ça me fait tellement un petit baume sur le cœur, tu sais, d'avoir cette petite vibe-là. C'est ça, tu sais, dépendant de ce que tu choisis... Ben, ça va influencer le restant de l'histoire. Mmh, ouais. Ça se peut que tu sois bon, ça se peut que tu sois neutre, puis ça se peut que tu sois vraiment méchant. Ouais. Tu sais, c'est magique.
Faut parler un peu du gameplay,
oui,
de la mécanique, pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent un petit peu mieux c'est quoi. Je vais parler de la mécanique des combats, si tu veux parler un petit peu de ce, mmh, de ce qui entoure tout ça. Donc, quand tu tombes en combat, on est en style, ce qu'on appelle en anglais le turn-based. Donc, chaque personnage va jouer l'un à la suite de l'autre selon une ligne de priorité qui est déterminée par certains stats. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails.
C'est de l'initiative.
Donc, puis n'importe quel. Les combats vont changer l'initiative. Je vais faire le même combat que toi. On n'aura pas du tout la même barre de priorité.
Il y a vraiment le côté aléatoire. Ouais. En fond de la principe, dans Donjons & Dragons, tu roules un D20, puis c'est le résultat plus un facteur de plus. Puis là, on y va selon
ça te place sur la ligne de priorité.
C'est ça.
Donc, les méchants peuvent t'attaquer en premier, puis ensuite, toi, ou tu vas attaquer avant eux autres, ou il y en a un qui va t'attaquer, il va y avoir un des tiens, ouais, qui va attaquer, l'autre va être un méchant, ça va être un des tiens. C'est très, très, très aléatoire selon la statistique et le roulement de dés. Mais bref, c'est un turn-based, donc chaque méchant, chaque bon va attaquer l'un à la suite de l'autre. T'as différentes méthodes d'attaque. Tu peux faire de l'attaque à main, tu peux faire de l'attaque à distance, tu peux faire de la magie. Tu peux utiliser les éléments de ton environnement. Tu peux décider de « je prends cette chaise et je la lance sur le méchant pour lui faire du damage ». Tu peux tirer des roches, tu peux tirer des potions, tu peux tirer des bombes. T'as un paquet d'options en matière d'action, mais t'es limité dans ton nombre d'actions par tour. À la base, chaque personnage et chaque méchant vont avoir une action. Donc, ils vont faire un déplacement et une action. Mais tout dépendant de comment tu vas builder ton personnage, comment tu vas monter de niveau, tu vas peut-être avoir des actions bonus qui vont se rajouter à ça. Tu vas peut-être avoir des deuxièmes actions qui vont se rajouter à ça. Plus tu vas monter de niveau, plus les possibilités vont augmenter sur tes personnages. Mais à la base, c'est chacun son tour, on fait une action, on fait un mouvement. Et là, c'est là que rentre le mode stratégie des combats. Quelqu'un qui est bon en visuel pour visualiser le champ de bataille, disons, va être capable de dire, ok, fait que là, si j'envoie lui là, puis si j'envoie mon autre là-bas, je vais être en avantage par rapport à tel monstre. Si j'utilise telle magie contre tel monstre, parce que je sais que lui est faible à cette réaction-là, ça l'amène énormément de stratégie. Et comme on dit, les combats varient de game en game. De combat à combat, c'est jamais la même chose.
Un exemple, c'est ce qui est plaisant. Cette semaine, on avait un combat contre des créatures et on l'a recommencé plus d'une fois parce que ça allait pas bien tout le temps.
Ouais.
Et l'initiative était jamais la même et les réactions des monstres n'étaient pas pareilles. D'une fois, on recommençait à l'autre. Ouais. On peut pas dire, ah oui, mais lui, il va aller là. Non, la fois d'après, il allait ailleurs parce qu'on était positionné ailleurs.
Ouais.
L'intelligence artificielle qui est programmée dans le jeu doit analyser ta position, tes points de vie.
Parce que l'intelligence est très, très forte.
Oui, c'est vraiment bien fait.
Puis, tu as trois types de games que tu peux faire. Tu peux faire la game débutant, intermédiaire et expert, appelons-le comme ça. Et évidemment, l'intelligence artificielle va augmenter selon le niveau également. Donc, si tu joues une game à intermédiaire, tu as plus de chances de te faire péter la gueule que si tu joues une game à débutant, où là, tu as un petit peu plus de flexibilité dans tes choix et dans tes attaques et dans ce que tu reçois aussi comme coup. Et c'est ce qui est plaisant de ce jeu-là, c'est que ça augmente encore plus le niveau de rejouabilité, comme on le disait tantôt. J'ai-tu oublié quelque chose?
Ben, au niveau de la mécanique... Je ne pense pas, là, c'est une mécanique qui est
très Donjons et Dragons, là. On n'est pas ici pour expliquer comment on joue à Donjons et Dragons.
Non, mais on n'a pas 7 heures.
Là. Non, c'est ça.
ça ressemble pas mal à ça. Une fois que le combat est terminé, ben tu loues, tu ramasses des dollars, des objets sur les cadavres, dans les trésors, etc. etc. Puis tu vas pouvoir le vendre, acheter d'autres armes, augmenter changer les armures, augmenter le niveau comme on fait une fois après certains points d'expérience. Puis là. Tu vas pouvoir affronter des monstres plus forts en avançant. Là, c'est quand même bien fait pour ça.
T'as le choix d'être bon comme t'as le choix d'être mauvais aussi.
Ouais.
Tu peux être vraiment le pire trou de cul du monde puis envoyer promener toutes les NPC que tu vas rencontrer, incluant le monde qui te suivent.
Oui, absolument.
Au risque de les perdre.
Oui, parce que tu pourrais perdre des personnages. Les personnages, absolument. Tu dis, moi je m'en vais, je te quitte. C'est
sûr que tu pourrais toi-même dire, va-t'en, je t'écœurerai de te voir.
Oui. Les possibilités sont là.
Ouais. Possibilité de romancer également les personnages de ton équipe.
Oui.
Il y a quoi? Il y a 7 personnages d'origine. Possibilité, je crois, au total de 10. Moi, je pense que j'en avais 9 au total, je pense, à la fin de ma première game. T'en rencontres d'autres plus tard. Mais t'as possibilité de romancer un de tous ces personnages-là. Ça disait au début que même si ton personnage principal ne peut romancer qu'un seul autre personnage d'origine... Tu peux matcher tes personnages d'origine entre eux autres. Donc, si, admettons, tu prends Shadowheart, puis tu vas la faire parler à Gale parce que tu veux qu'elle se matche avec Gale, tu vas être capable. Mais moi, quand je l'essaye, c'est peut-être un bug à ce moment-là, je ne l'ai pas réessayé depuis, mais si je prends Shadowheart pour aller parler à Gale, ben, automatiquement, c'est mon personnage qui va soudainement remplacer Shadowheart puis qui va parler à Gale. Je suis comme incapable dématcher, mais je disais sur Internet que c'était faisable au début. C'est pour ça que j'ai situé un bug.
C'était... Le vampire, tu peux en romancer 2 avec lui.
Fort probablement, c'est
oui,
ça.
Oh oui, je te le confirme. Okay. C'est justement ma collègue avec qui j'en parle tout le temps. Elle dit que c'est le seul qui est d'accord avec ça.
Fait que est-ce que ça, ce que je lisais, que c'était possible de le faire, est-ce que c'était ça le bug? Et ça a été corrigé pour que tu puisses être capable de le faire? Ou tu étais capable de le faire, puis là, il y a eu un bug qui t'empêchait de le faire, puis ça a peut-être été corrigé, là, je sais pas. C'est un jeu qui a eu... énormément de bugs.
C'est vrai.
Quand il est sorti sur PC, il y avait déjà 2-3 méga grosses patchs pour régler énormément de problèmes. Quand ils l'ont sorti sur la PS5, beaucoup de bugs avaient déjà été créés, mais de par le fait que c'était une autre console, ça l'a créé d'autres nouveaux bugs, donc on a eu d'autres patchs depuis. Et il en reste encore beaucoup à régler. L'Ariane est au courant de ces bugs-là. L'Ariane fait des mises à jour régulièrement.
Oui, mais le fait que le jeu a tellement de possibilités, l'arbre de possibilités est tellement grand que d'échapper une programmation... Tu sais, j'en parlais l'autre jour, je me disais, imagine le travail qu'il y a derrière ça. Parce que selon que tu réponds, Des fois, tu as 4 ou 5 choix de réponse. Si tu réponds le 4, ça va ouvrir une porte ailleurs sur d'autres choses. C'est sûr qu'à un moment donné, tu en échappes. Fait que là, à un moment donné, il y a du bêta testing pour un jeu linéaire à la Tomb Raider, etc. Ben, tu dis, je frotte les murs tout le long, à un moment donné, il y a un petit trou qu'on ne savait pas, on le patch, puis c'est tout. Ça, c'est tellement ouvert. Mais c'est un open world, mais il y a tellement d'interactions en plus. Mettons, si je compare à d'autres jeux open world, qui sont pas comme ça, où il y a moins d'interactions, parce que tu as une histoire, mettons, t'as une histoire assez linéaire. Mettons, je vais prendre la série les nouveaux Zelda. Mm-hmm. Tu as une histoire, mais tu n'as pas beaucoup de branches que tu peux changer dans l'histoire de la trame de fond. Là-dedans, tu peux tout changer. Ouais. Fait qu'en plus d'avoir physiquement des fois des bugs de je reste pris sur une roche ou dans un mur, t'as des bugs de mécanique de jeu, t'as des bugs de résultats d'interaction. Fait que c'est sûr, mais ça enlève. Moi, j'ai pas vécu à date, j'ai pas joué autant d'heures, mais j'ai pas vécu à date de situation très frustrante du jeu au bug.
C'est là que je m'en venais. Ce que de mon vécu à moi et de ce que j'ai lu également, parce qu'à un moment donné, à force de pogner les mêmes bugs, tu te dis, OK, c'est-tu moi le problème? Fait que tu vas sur Internet voir, OK, c'est-tu un bug connu, quelque chose. La grande majorité des problèmes arrivent à l'acte 3. L'acte 1 et l'acte 2 sont très, très peu buggés.
OK, c'est ça, je suis pas rendu là.
À l'acte 3, là, c'est là que moi, j'ai eu énormément de difficultés. Je textais souvent M. Thon pour dire, mot, t'as dit, ma game a encore crashé. Et le genre de bug, c'est ça, c'est genre, t'es dans ton inventaire, tu vas peser sur le piton pour rassembler ton inventaire d'une certaine façon, et là, il se passe plus rien. Le jeu a complètement arrêté d'avancer, il se passe plus rien du tout, donc t'es obligé de resetter sur ta dernière save la plus récente, et des fois c'est fâchant parce que quand tu t'y attends pas, ça fait peut-être une heure, deux heures, t'as pas sauvegardé.
Il n'y a pas eu d'autosave.
T'as pas eu d'autosave parce que tout ce que tu fais depuis une heure, c'est faire tes levels up, puis vendre des affaires, puis là ça crache. Tu viens de tout faire ça pour rien, faut tout te recommencer. C'était fâchant. Et malgré les dernières grosses patches qu'il y a eu, ça m'est arrivé encore quelques fois, donc le bug n'est pas entièrement réglé. Il y a eu d'autres bugs où, quand ton personnage saute, il saute pas là où tu veux, puis il se retrouve carrément dans le vide néambulesque. Tu sais pas où il est rendu, puis à un moment donné, ben, ton personnage tombe, puis il crève. J'ai pogné deux fois ce bug-là, des bugs sonores, où t'as plus le vocal.
Ça arrive, ça, c'est un des bugs.
Ça parle, et là, pour deux, trois citations, t'entends plus du tout le vocal. T'entends la musique, t'entends les effets sonores, mais le vocal n'est plus là. Ouais. Et là, c'est un autre personnage qui parle. Lui, tu l'entends, puis ça revient à un autre personnage. Lui, tu l'entends plus. Ouais,
ça, c'est arrivé quelques fois, mais avec les sous-titres.
Avec les sous-titres, tu t'en sors. Mais tu sais, c'est un peu... Tu sais, c'est juste... C'est gossant.
Oui.
Plus qu'autre chose. Mm-hmm. J'ai eu des bugs graphiques. Il y a une certaine armure. J'ai hâte de voir si tout le monde sait faire ça, mais il y a une armure en particulier. Puis c'est la seule armure de tout le jeu où ça m'a fait ça. Dès que mon personnage se croisait les bras... Il y avait une extension d'armure qui se faisait de chaque côté de ses coudes, comme si elle n'avait pas plié les bras. Fait qu'elle était pliée les bras, mais elle n'avait pas les bras pliés non plus, puis ça faisait ça à chaque fois, puis c'était laite. Au début, c'était drôle, mais à un moment donné, t'es tanné. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné, puis j'ai juste changé d'armure, parce que j'étais écœuré de bug. J'étais écœuré du bug. C'est pas grave! C'est juste éventuellement gossant. Mais le plus gros bug, le plus désagréable, c'est quand le jeu fait juste un crash, qui veut juste, il se passe plus rien.
Ouais, ça.
Et le jeu arrête pas, la musique continue, t'as encore le visuel, mais t'as plus aucune commande qui fonctionne. Ou là, t'es obligé d'arrêter le jeu par la PlayStation puis de recommencer. Celui-là, il est fâchant et il m'est arrivé souvent durant l'acte 3, dont un des derniers boss où ça a été tough, j'ai eu de la misère. Bang, je donne le coup final. Yes, je loot, le jeu crash. Et là, t'es obligé de recommencer le combat. C'est fâchant. Ça m'est arrivé un petit peu moins souvent après la dernière patch, mais ça m'est arrivé encore quelques fois. Donc, j'imagine qu'ils travaillent encore là-dessus. Mais tu sais, comme tu l'as dit, le jeu est tellement massif que c'est difficile des fois de savoir exactement c'est quoi le problème. Puis de travailler là-dessus, des fois, ça peut être long. Donc, faut pas s'attendre à ce que le jeu soit parfait, sans bug, il y en a. Donc, si jamais vous n'avez pas commencé et que vous allez le commencer, attendez-vous à possiblement peut-être ce genre de petit bug. Le seul conseil que je peux vous donner, sauvegardez.
Sauvegardez
souvent. Prenez l'habitude de très souvent sauvegarder.
Comme à l'époque de quand on faisait nos travaux d'école, puis que là, ouais. Tu fais ton Word, tu fais tes affaires, puis ça plante l'ancien, ouais. Anciennement les vieux Windows moins stables.
Ouais.
Ça plantait, là, pouf, ah, j'ai tout perdu. Fait que là, ouais. Sauvegarder régulièrement.
Puis vous pouvez sauvegarder durant les combats.
Oui.
Vous pouvez sauvegarder durant un dialogue. Vous pouvez sauvegarder vraiment en tout temps. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez que vous avez un choix difficile à faire. Vous ne voulez pas que ça plante, sauvegarder. Vous voyez que, hey, maudit, le combat est donc bien difficile. Mais je pense que je vais l'avoir, mais je veux pas que ça bug. Sauvegardez. Mm-hmm. Prenez vraiment l'habitude de sauvegarder régulièrement. Vous allez vraiment vous sauver énormément de frustration. Rien d'autre à dire.
Mais il y a deux points qui me dérangent.
Vas-y.
Je parle des deux points. Au niveau de... On le voit quand on joue en ligne, l'initiative.
Oui.
Et le fait qu'on peut quand même jouer avant les
ouais,
autres.
Oui, OK.
Tu sais, dans le fond, si on est trois, puis moi, je suis... dès que j'ai... Dans le fond...
Plusieurs de nos personnages alliés qui sont côte à côte dans la barre d'initiative. Dans la barre de
priorité. Partage l'initiative.
Partage
l'initiative. Si on a tous les trois, mettons, je vais aller dire 18, là, dans la barre d'initiative, ben on pourrait jouer les trois en même temps, qui est pas, mais pas dans l'ordre des faces en haut.
Ouais. Parce mettons qu'on on a Bedu, Yugi, Maryse. Les trois côte à côte. Oui. Normalement,
ça serait moi.
Bedu est en premier, donc Bedu jouera en premier. Oui. Ensuite, ça serait moi. Ensuite, ça serait Maryse.
Mais Maryse peut jouer avant moi.
Mais là, dans le concept de multiplayer,
ouais.
Maryse et moi peuvent jouer en même temps que toi. Ouais. Ce qui peut être bien, mais ce qui est plus souvent qu'autre chose, problématique.
Fou.
Parce que Maryse va vouloir faire de quoi. Mais là, moi, je la shift, je fais d'autres choses. Et là, elle vient de perdre son action parce que je l'ai fait avant elle.
Tu sais, c'est pas grave. Nous, quand on joue en ligne, on se dit « OK, parfait, là, on se le dit à haute voix. OK, ouais. Yugi, c'est à toi. OK. » On se le dit.
Moi, sauf je rappelle que... souvent à mon chum de regarder en haut. C'est rendu pour acquis parce qu'il joue toujours.
Ben, Monsieur Thon a le même problème.
Mais là, je vais expliquer pourquoi. C'est que ça pop dans mon écran. « Your turn.
Ouais. »
Parfait, « Your turn. » C'est à mon tour. C'est ça l'affaire. Ouais. « Your turn. » OK, go. Puis là, ah, c'est bon, c'était pas à moi.
Ouais.
Alors que des fois ça le fait pas. C'est ça, c'est pas constant. Parce que quand on a joué cette semaine, à un moment donné, je pouvais rien faire jusqu'à ce que ça pop à moi. Puis des fois, c'est en même temps. Fait que je sais pas si c'est en fonction vraiment si on partage le même numéro d'initiative, là on aurait la même initiative ou non. Ça me dérange. Je pense que ça serait c'est facilement.
Ça serait très facile de faire comme si comme ils font avec le single player.
C'est ça.
Puis l'incorporer au multiplayer.
C'est ça. Ça, c'est un petit bug. Puis l'autre, si j'ai un point négatif à dire, c'est que là, mettons, j'ai une game solo, une game avec Maryse, puis une game à trois. Je suis pas sûr que je vais recommencer une autre partie juste à cause de la première, du premier bout dans le vaisseau, là.
Ouais.
Puis la première section, puis là, vraiment le premier bout jusqu'à ce que tu arrives. La première heure et que, comme on dit, c'est toujours la même chose. J'aimerais qu'on puisse la skipper. Une fois qu'on a joué, je pourrais dire ça.
Là. Ben, tu sais, tu peux skipper les scènes. Là.
Oui,
mais faut quand même. Ce qui rend la première heure, oui. Premier deux heures, un petit peu plus rapide. Mais... parce que tu les as vus, ça fait trois fois que je les vois, c'est beau. Tu skippes pas
ça. C'est ça. Mais ça, j'aimerais qu'on puisse skipper ce bout-là.
Ouais, OK.
C'est-à-dire, on pourrait commencer plus tard ou ailleurs. Tu sais, je comprends que... Mais, tu
mais en même temps, ce que je te dirais pour... Moi aussi, je suis donc rendu à ma troisième partie que je fais avec mon nouveau personnage, mais ma deuxième solo. Donc, c'est la troisième fois que je fais le début.
Oui.
Et les trois fois, je n'ai pas fait le début de la même façon. J'ai pas approché les combats de la même façon.
Ben,
donc, ça m'a apporté quelque chose de « OK, là, je vais essayer ça. Là, je vais essayer ça. Mm-hmm. » Le fait de jouer un autre personnage aussi va changer la mécanique des combats. Donc, ça change un peu. Oui, le storyline reste le même, mais ça, le storyline, comme je dis, en pesant sur X, tu peux passer les dialogues, ce qui va un petit peu plus vite.
Mais je rends compte qu'on débat sur le fait que je peux pas jouer quatre fois à mon jeu. C'est quand même pas grave, là. C'est quand même trois games de fête, là. De démarrer, du moins. Tu sais, c'est pas un gros point.
C'est pas ce que tu ferais avec un Tomb Raider.
Non, Tomb Raider, mettons...
Tu l'as passé.
Ben, si je l'ai passé, je vais aller retourner, mettons... OK, j'avais pas telle arme, mettons.
Ouais,
l'arc, okay. Etc. Là, je vais aller googler où est-ce qu'ils sont les pièces. C'est la seule affaire que je vais faire. Je vais retourner parce que tu peux retourner dans dans tel camp.
Ouais.
Fait pour compléter les armes ou les trucs que j'ai pas réussi, c'est la seule affaire que
mais tu ne recommenceras pas le jeu au grand
non,
complet.
Moi, non, moi, je ne recommence pas.
Ben, moi, écoute, moi, je le ferai parce que je suis un débile mental. Sais,
je réécoute même pas des films une deuxième fois. Ben, ça aurait été du temps.
C'est okay. Ça. Mais moi, je le fais parce que je suis un débile mental.
Mais bon, c'est un petit point négatif.
D'accord.
C'est les deux seuls, je pense. Là.
C'est legit.
Sauf qu'il y a un gros point positif qui fait que, tu sais, c'est rare que. Ben, c'est jamais vraiment arrivé, à part jouer à Mario Kart, quand je partage avec Maryse un jeu vidéo en même temps. Maryse aime beaucoup nous regarder ouais. Jouer à des jeux. Fait que des fois, je vais jouer à un jeu, puis elle s'assoit, puis elle fait ses choses, puis elle me regarde jouer. Mais jouer ensemble, tu sais, ça fait Soul Calibur qu'on a joué ensemble, là, tu sais, je suis un gros fan. Mais sinon, pas tant que ça. Puis là, ça nous fait une activité ensemble, en guillemets. Ouais. Qui pourrait être écouté une série télé, là, mais là on joue à un jeu vidéo, ce qui est quand même plaisant là, comme activité à faire et qui rejoint le côté Donjon Dragon oui. qu'on aime beaucoup. Puis que voilà, Marie.
Moi j'ai un point négatif.
Vas-y, s'en prends.
Et c'est sur le point de vision.
Oui.
On n'est pas capable de regarder en hauteur.
C'est vrai.
Puis pour regarder en hauteur, il faut regarder en plongée. Ce qui, moi, me dérange. Oui. Avoir des décors aussi beaux, j'aimerais pouvoir regarder en haut des fois. Tu sais, c'est... Tu sais, des fois, t'es en avant d'un mur. Le mur n'est pas si haut que ça, là. Mais tu peux pas regarder s'il y a quelque chose en haut. Y a-tu quelqu'un qui te surveille? Y a-tu de quoi aller chercher là? Faut-tu que je trouve une façon d'y aller? Tu y arrives pas.
Il y a une certaine façon d'y arriver.
Oui, mais c'est comme je te
mais dis. Mais ça l'enlève un côté graphique, un beau côté graphique, parce qu'en mettant sur le L3, où ça te permet d'envoyer ton curseur plus loin puis voir ce qu'il y a un petit peu plus loin.
Ouais, mais
tu peux le faire au-dessus, mais tu sais, je suis d'accord avec toi, le visuel est pas le même, non, le visuel est beaucoup moins beau, puis même des fois, là, ça bug, tu sais qu'il y a de quoi.
Tu te retrouves au travers d'un mur.
Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, oui.
C'est ça. C'est vraiment quelque chose qui m'agace. J'aime pouvoir regarder partout quand que je joue. Moi, je suis nerveuse quand que je joue, fait que j'aime ça pouvoir regarder s'il y a quelque chose qui pourrait s'en venir ou y a-tu de l'air d'avoir un ennemi qui s'en vient. Et c'est difficile parce que justement, le point de vue est soit très très proche du personnage.
Ou très très loin.
Ou très très loin, ou en plongée.
Un vol d'oiseau. Là.
Un vol d'oiseau. Là, tu fais, ouais, mais c'est pas ça que je veux, tu sais, je veux voir comme en haut, je veux juste pouvoir regarder
ouais.
là.
Ouais.
C'est moi, c'est le côté qui me dérange un peu, surtout à la beauté des décors. Faut que tu t'éloignes énormément pour être capable de voir où est-ce que tu étais. Mm-hmm. Tu sais, faut que tu arrives à trouver un point quelque part, puis tu fais ah, oh, ok, ça avait l'air de ça au-dessus du mur où est-ce que
j'étais. Mais en même temps, je pense que ça l'apporte un certain point. Entre guillemets, de réalisme.
Mais moi, je suis capable de regarder en haut.
Mais t'es pas capable de voir s'il y a de quoi sur le toit.
Non.
Si t'es sur le bord du mur,
voir ça, c'est correct. C'est correct. C'est pour ça que moi, je le prendrais pas, le vu en plongée. Parce que ça, c'est pas réaliste.
OK.
Je peux pas m'envoler et pas regarder, là. Ouais. C'est comme Katamari Damacy, là. Ouais. Tu sais, c'est.
Mais à la
Tomb Raider. Pouvoir comme.
Tu peux.
Lever la tête. Je vois pas sur le dessus.
Ouais.
Je vois pas sur le dessus. Mais je peux voir où est-ce que ça s'en va, cette affaire-là. Je suis capable de l'escalader ou je ne suis pas capable.
Tu peux monter la caméra de base vers le haut.
Exact.
Sans aller en point de vue stratégique.
Ouais.
C'est ça.
Okay.
Tu sais, un peu comme dans justement Breath of the Wild. Oh,
ouais.
Là, tu peux regarder
par en haut.
Non, j'ai passé de cette minute pour monter là.
Ah oh, ouais.
T'avais-tu un autre point que je viens de penser
à toi? Non, vas-y.
Avantages, désavantages. C'est contre-intuitif pour les joueurs de Donjons Dragons.
Pour les joueurs de Donjons Dragons, ouais, OK.
Parce que des fois, on est 5 autour d'un ennemi, puis il n'y a personne qui est en avantage. Ouais. Là, c'est très
alors
technique.
Alors que dans
là,
Donjons Dragons, tu l'aurais. Si,
tu l'aurais. Puis des fois, ça te dit désavantage, parce que quand tu choisis une action d'attaque, ça va te dire ton pourcentage de réussite, mettons, parce que normalement, on roule un D20. Fait que là, si ça te dit, mettons, 20%, ça veut dire que ça te prend, mettons, plus que 15 pour ton jeu de dé naturel pour l'avoir, etc. Puis là, tu dis, mais ça dit désavantage. Puis tu dis, pourquoi je suis en désavantage? J'ai pas de statut d'effet. Je suis pas au niveau d'un différent niveau là, de sol. Là. Des fois, si la personne est en hauteur, puis toi, t'es plus bas, tu peux être en désavantage. Mais des fois, t'es un, pas sur le même niveau au sol, Puis là, je suis en désavantage. Puis je comprends souvent, pas pourquoi.
Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est selon le statut de l'ennemi également. Des fois, l'ennemi peut avoir un buff que tu vois pas,
oui,
qui te met en désavantage.
Mais,
et là, oui, c'est pour ça qu'il faut que tu ailles voir l'ennemi avec les commandes, puis l'examiner et checker tout ce qu'il y a.
Mais souvent, juste au niveau de la position,
Des règles de quand tu es côte à côte. Quand tu es deux en sandwich avec un ennemi en plein centre, normalement, tu seras en avantage, c'est tandis ça. Que dans BG3, tu ne l'es pas.
Non, c'est ça.
Est-ce qu'ils ont... Moi, je pense qu'ils ont voulu faire ça pour rajouter un élément de difficulté.
Oui, parce que sinon tu te fais overcrowd
exactement. Et à l'inverse, quand tu te fais overcrowder, là c'est toi qui es dans mal. Oui. Alors que là, ça m'est arrivé d'avoir 5 méchants autour de moi, puis il y en a juste un qui a réussi à me frapper. Alors que dans Donjons et Dragons, je serais probablement mort.
Oui, c'est ça. Mais ça reste un petit point que je
fais. Oui, je suis tout à fait d'accord.
Tu sais, c'est un point 2 là, de base de notes.
C'est minuscule. Parlons justement de notes, à moins que vous ayez autre chose à mentionner. Je suis allé sur IGN, qui est le gros site général de référence de jeux vidéo. L'équipe d'IGN lui a donné un 10 sur 10. L'audience d'IGN a donné un 9.6 sur 10, ce qui est quand même très élevé comme note. Je suis allé voir sur IMDb, parce que je voulais voir justement le voice casting. IMDb a donné une note.
Okay.
9.8 sur 10 sur IMDb. Ils donnent même pas ça pour des films ou des séries télé.
Non, c'est
Puis là, ils l'ont donné pour un jeu vidéo. C'est un jeu qui est très, 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 très bien coté.
Mm-hmm.
À chaque année, il y a un concours du meilleur jeu de l'année. À mon avis, cette année, la compétition est très, 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 très forte. Il y a eu de très gros, très bons jeux cette année.
Mais il va dans le.
Mais je pense, c'est sûr que BG3 est dans les nominés, c'est sûr et certain. Mm-hmm. En tout cas, pour le moment, je pense que c'est lui qui va remporter la majorité des prix parce qu'il il est très, très fort.
Oui.
Ma note à moi, c'est un 9.8 sur 10 également. J'enlève 0.2 à cause des bugs. Oui, c'est normal qu'il y ait des bugs, mais ça m'a tellement eu d'occasions où ça m'a vraiment fâché. C'est, à mon avis, le plus gros point négatif de BG3 pour moi. Donc, moi, c'est un 9.8.
Mais tu peux pas donner 10 parce qu'il est pas parfait. Tu sais, on en parle depuis tantôt, là. Mais tu sais, moi, mettons la mécanique, etc., des petits ajustements. Puis, il y a beaucoup de patchs qui sortent. Fait que c'est ça. Mais je vais lui donner un 9.5, là. On en parlait cette semaine quand on jouait. C'est le jeu vidéo auquel j'ai plus joué de ma vie, je pense. Ou non, peut-être des 10 dernières années. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Je suis pas un gros gamer, mais celui-là, j'aime vraiment, vraiment jouer.
Puis côté addictif, pour qu'un jeu soit si addictif que ça.
Ouais, puis au niveau de la rejouabilité, puis l'envie de recommencer, moi, j'ai jamais recommencé un jeu du début après l'avoir fini de ma vie. J'ai jamais fait ça. Tu sais, fait que là, je me dis, celui-là, je vais continuer les trois parties séparées. Est-ce que je recommencerai une autre après, on verra, mais tu sais, je vais quand même compléter probablement les trois games que j'ai en cours, donc ce qui est quand même beaucoup, donc je vais y aller avec un 9.5 sur 10, c'est définitivement le meilleur jeu auquel j'ai joué depuis très très longtemps.
Oui.
Je dirais 9.6 facile.
9.6.
Ouais, juste pour le plaisir, un petit point de plus.
Plus que moi.
C'est parce que c'est ça, qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est comme dans The Price is Right. Là. Tout est comme mieux que l'autre.
C'est ça, sans dépasser.
Puis, moi, juste à cause du petit bug, là, mais pour le reste, j'y enlèverais des points aussi parce que c'est bien trop addictif. Là,
ouais, c'est ça.
Écoute, c'est...
Mes notes d'université vont enlever des points, mais moi, j'enlèverai pas de points pour ça.
Non, c'est ça.
Non, ça va.
Donc voilà une de très 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 bonnes notes pour Baldur's Gate 3 qui est disponible sur PC, Mac et PlayStation 5, probablement éventuellement sur Xbox parce qu'il est annoncé comme étant disponible mais il ne l'est pas, mais probablement qu'il va l'être éventuellement. Et c'est ça, je n'ai absolument rien d'autre à dire pour ce jeu, on a fait le tour, on a donné les notes et on espère qu'on vous a donné, j'espère, le goût d'aller voir au moins c'est quoi ce jeu-là, de faire des petites recherches internet, d'aller voir des vidéos. Et si on vous a donné le goût de jouer, ben tant mieux. Bienvenue dans ce jeu du diable.
Bonne chance.
Bonne chance. Et ça nous a fait plaisir de vous amener vers ce vice épouvantable. Donc voilà, c'était notre épisode, notre deuxième épisode de la saison 3. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir écouté. J'espère qu'on vous a donné le goût de jouer ou d'écouter une des trois choses dont on vous a parlé aujourd'hui. Sinon, ben, une chose de moins à regarder de votre côté, donc un petit peu moins de recherche à faire sur les sites de streaming et sur les jeux de vente, les sites de vente de jeux, whatever. Tant mieux si on vous évite ça, tant mieux si on vous a donné conseil et que ça vous tente d'y aller, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on fait ce podcast-là, puis parce qu'on aime bien ça parler de ça également. Prochain épisode, capsule express, première capsule du mois d'octobre, c'est comme mentionné pour la saison 3, moi qui fais la première, Bedu qui fait la deuxième.
Mm-hmm.
Donc le 10 octobre, capsule express disponible, je vous parlerai de la série Ahsoka, qui est la série de la Guerre des Étoiles basée sur le personnage d'Ahsoka, qui est disponible sur Disney+.
C'est pas une lutteuse, ça?
Non, ça c'est Ahsoka. Je parle de Ahsoka Tano, qui est, à mon avis, l'une des meilleures séries de la Guerre des Étoiles que j'ai écouté depuis très longtemps. Même si ça fait pas très longtemps qu'il y a des séries de Guerre des Étoiles.
Il y en a plusieurs.
Il y en a eu plusieurs, mais celle-là me retombe vraiment, vraiment beaucoup dans l'univers de la Guerre des Étoiles qu'on a connu avec la première trilogie.
On parle de l'épisode 4, 5, 6.
L'épisode 4, 5, okay. 6. Ça me replonge vraiment beaucoup là-dedans, avec les éléments de la Guerre des Clones, avec les éléments de la prequel, la première trilogie, épisode 1, 2, 3. On oublie pour l'instant la...
On peut oublier pour toujours.
7, 8, 9, pour l'instant, on en oublie. Mais tu sais, la série nous... En tout cas, je vais en parler plus parce que là, je vais me lancer là-dedans. Capsule Express, 10 octobre sur Ahsoka. Et le 20 octobre, capsule présentée par Bedu. T'as-tu déjà une idée?
Oui, ça va être The Summer I Turned Pretty sur Prime Video. Et je vais probablement avoir fini aussi Only Murders in the Building, saison 3 sur Disney+. Je vais en parler un peu, mais Summer I Turned Pretty, je vais probablement la faire avec Maryse parce qu'on l'écoute ensemble. On a fini la saison 1, on s'attaque à la saison 2 bientôt. Entre peut-être Baldur's Gate 3, là, c'est ça. Là. Entre
BG3 puis l'université puis le travail. Hein? En tout cas, on va trouver le temps.
Voilà. Le sommeil. Pourquoi dormir?
Pourquoi dormir? Là, c'est pour les faibles, le sommeil. Donc voilà, nos prochaines capsules express et ensuite épisode mensuel du 1er novembre.
Ça finit-tu là, qu'on a joué à Baldur's Gate?
Ouais, on finit ça là, puis je mensuel le 1er novembre. Je ne sais pas de quoi qu'on va parler. On va vous présenter probablement sur notre page Facebook. Allez sur la page Facebook, abonnez-vous, partagez. Et là-dessus, c'est tout. On vous laisse. On a une game à aller jouer. Donc,
Roulez l'initiative.
Portez-vous bien. Bonne soirée, bonne journée, bonne semaine. On se revoit bientôt pour une autre critique de Yu-Gi-Oh!